On pourrait faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer les fragments d'une époque pour les transmettre aux générations futures. Un peu comme une bouteille jetée dans la mer du temps.
Ensemble, nous démarrons l'émission Capsule temporelle.
Alors voilà, aujourd'hui, donc, je suis à Saint-Jean-en-Royans, donc avec l'association AIR, hein, c'est ça, A-I-R, et donc ils vont nous expliquer un petit peu et se présenter déjà. Donc.
Alors moi, je suis Pierre Asselin, je suis le président actuel de AIR. AIR, ça veut dire Accueil interculturel en Royans.
Et moi, je suis Marie Guérimand, je suis aussi au conseil d'administration de AIR, et voilà, parmi les membres fondatrices.
D'accord. Et vous êtes nombreux dans cette association ?
Alors, si vous comptez les bénévoles impliqués, on est à peu près 80. On a des donateurs, on est en train de faire justement les rescrits fiscaux. On a des donateurs réguliers ou occasionnels qui nous permettent de fonctionner à 60 personnes. Et donc, c'est une association qui fonctionne bien et on a fêté nos 10 ans l'an dernier.
Alors, on reprend depuis le début. L'association AIR, c'est quoi ?
Alors, l'association AIR, elle s'est créée sur une demande très particulière d'une famille de Chambéry qui venait d'Albanie et qui était menacée vraiment d'expulsion. Elle devait quitter Chambéry rapidement parce que la police les recherchait, en fait. Et donc, les copains de Chambéry ont connecté avec un copain d'ici et pour dire « est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» et on a regroupé un groupe d'amis. En fait, c'était ça, hein. Un groupe d'amis qui a dit « nous, on met par exemple 20 euros, 30 euros, 50 euros, on essaie de trouver un logement et on accueille la famille. » Donc, c'est parti sur un truc vraiment très famille, une famille avec un groupe. Et puis, petit à petit, on a vu que cette famille est arrivée, les enfants ont allé à l'école, ils ont fait des copains à l'école, voilà, bon. Et ça a fait une espèce de prise de conscience locale qu'il y avait peut-être 50, 100, 200 personnes qui connaissaient cette famille et qui étaient autour. Et comme ils étaient menacés d'expulsion, on a mis en place, c'est Marie pour en parler, des cercles de silence pour attirer l'attention des gens sur la situation de cette famille menacée d'expulsion. Il faut lutter contre ça, il faut essayer de faire en sorte de qu'ils aient les droits de rester, quoi. Et ça a mis beaucoup de connexion avec la population et y compris aussi avec les élus qui voyaient un petit peu ce mouvement se faire et on a réussi à les mettre dans la boucle avec nous. Et finalement, cette famille a été régularisée par une intervention directe du maire auprès du préfet.
D'ici, le maire d'ici.
Oui. Oui, en fait, pour dire quand... Donc on a été créé en janvier 2014. Et en fait, tout ça s'est passé très vite au départ. C'est-à-dire que cette famille devait être mise à l'abri à partir de fin décembre. Donc hop, ça s'est... Et le maire à l'époque qui a changé, en fait. Hein, il y a eu deux maires différents qui nous ont soutenus de manière différente. Et la première maire nous a aidés à avoir tout de suite un logement avec DH. Et donc, on loue depuis 2014, enfin début 2015, un logement et qu'on peut continuer à louer, nous, au sein de l'association. Et donc, en fait, notre principe, donc depuis cette histoire-là, on a continué, une fois qu'en fait, on passe une espèce de contrat avec les familles qu'on accueille, en disant, une fois que vous êtes régularisé, on vous demande, dans les 2-3 mois, de quitter le logement et de voler de vos propres ailes. Alors, les liens d'amitié demeurent, évidemment, parce que à part deux familles, toutes les autres sont restées sur le Royans. Il y en a qui, bon après pour des raisons familiales, il y en a qui ont préféré partir. Mais voilà, du coup, c'est des vrais liens d'amitié qui demeurent. Et donc, on a toujours un logement en ce moment qu'on loue à DH pour accueillir des familles. En fait, les familles qu'on accueille, c'est toujours c'est par les réseaux. En fait, on est en lien avec d'autres associations. À Romans, à Valence, aussi dans le Diois. Et souvent, on reçoit des appels. Ben là, il y a une famille qui est à la rue. Est-ce que vous avez un logement en ce moment? Ben, souvent, c'est non, on n'a pas 50 logements. Mais parfois, voilà, c'est comme ça qu'on accueille des familles. Et pendant une époque, on a accueilli deux familles en parallèle. On avait un peu d'argent de côté. Et voilà, il y avait vraiment une demande urgente pour une famille. Et on s'est dit, bon, ben, on y va, quoi. On se lance et on accueille ces deux familles.
D'accord. Parce que c'est un logement assez grand. Il y a quoi comme capacité?
C'est vrai qu'on a ciblé les familles. Donc, c'est un T3. Il y a deux chambres. Donc, on peut loger des parents avec des enfants. Et donc, le ciblage, c'était des familles avec enfants. Mais on a aussi eu l'occasion d'avoir des jeunes adultes seuls, parce qu'il y a eu la création, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'un CAO, au moment où un centre d'accueil d'urgence et d'orientation, au moment où ils ont fermé Calais et La Chapelle, ils ont relogé plein de gens, soi-disant, et donc ils ont utilisé le centre de vacances de EDF à côté de Saint-Nazaire, à Saint-Hilaire, et il y a eu tout d'un coup 40 ou 50 ou 60 jeunes qui sont arrivés là, débarqués. Alors, ils étaient assurés de du gîte et du couvert, mais il n'y avait rien d'autre. Donc les associations locales ont été mobilisées, donc nous, pour accompagner ces jeunes, parler avec eux, de voir un petit peu comment ça pouvait faire. Et certains donc sont restés après la fermeture de ce CAO, qui a eu que 6 mois d'existence, en fait. Donc on s'est occupé aussi de jeunes isolés, mineurs ou majeurs, jeunes majeurs.
Non, c'est majeurs.
Oui, les mineurs, c'était une autre histoire. Voilà. Et en fait, le principe, c'est que on est sollicité, après on sollicite nos adhérents, et des fois ça répond de façon très forte, ou des fois pas. Alors si ça répond, on fait. Si ça répond pas, on fait pas. Mmh. Aujourd'hui, on est par exemple sur un projet d'accueil dans des familles. Donc avec 5-6 familles, accueillir un jeune par exemple qui serait en études ou scolarisé et qui aurait besoin d'une famille d'accueil le week-end et pendant les vacances par exemple.
Donc, pas forcément au quotidien?
Non, parce qu'au quotidien, le jeune qu'on a eu, il était scolarisé et interne. Donc il était du lundi au vendredi, il était dans l'école. Mais vacances scolaires, qu'est-ce qu'on fait? Il était dans la rue. Vacances le week-end, il n'y a personne pour l'accueillir. Donc voilà, ça s'est fait avec des familles.
Et nous, on a une difficulté parce qu'on est en zone vraiment rurale et qu'on n'a pas de lycée. Et donc, ça pose... Et les problèmes des transports, c'est un vraiment très, très gros problème, en fait. Parce que même dans certaines familles qu'on a accueillies, qui étaient familles qui venaient de la ville, citadines, dans leur pays d'origine, ils disaient, mais... qu'est-ce qu'on fait là? Ils n'ont pas le droit de conduire. Enfin, c'est vraiment handicapant, en fait. Et donc, là, ça aussi demande beaucoup de présence des bénévoles. Parce qu'il faut accompagner à tous les rendez-vous médicaux. Il faut accompagner pour les papiers. Il faut accompagner partout, en fait. Et donc, ça demande un gros engagement. Et donc, autour de chaque famille, on crée ce qu'on appelle une commission famille. C'est-à-dire, autour de chaque famille, entre 5 et 8 personnes ou 10 personnes se mobilisent pour gérer justement tous ces accompagnements, garder les enfants quand il faut, les parents vont à la préfecture, enfin bon, bref, la vie quotidienne, quoi.
Avec les écoles.
Voilà, le lien avec les écoles, le lien pour la santé, le lien avec les assistantes sociales.
La barrière de la langue.
Voilà, alors on est vraiment... confrontés à des attitudes très différentes suivant les personnes qu'on accueille. Entre ceux qui ont vraiment envie de s'intégrer et qui font énormément d'efforts pour apprendre le français. Et puis d'autres pour qui c'est trop difficile, sans doute, ou qui se projettent pas, en fait, qui se projettent ni ici ni ailleurs, en fait. Et c'est très douloureux. Parce que, en fait, le fait de pas arriver à apprendre, de pas vouloir apprendre, enfin, on sait pas, on peut pas mesurer, mais, ça crée vraiment un handicap très fort, supplémentaire.
Et alors, en général, ça, c'est un peu difficile peut-être d'avoir des généralités, mais ils peuvent rester jusqu'à combien de temps avant d'être régularisés? C'est quoi le temps à peu près moyen pour ça?
Au début, on nous a dit 6 mois, le temps de poser des demandes et qu'il y ait une réponse. C'est la politique gouvernementale de raccourcir les délais. Mais en fait, les gens, quand on les a 3 ans, 4 ans. parce que le dossier, il y a des papiers, des centaines de milliers de papiers différents, et puis le temps que ça soit instruit, reçu à la préfecture, ils sont débordés, parce que voilà, ils n'arrivent pas à répondre dans les temps, donc les gens, pendant ce temps-là, il faut bien s'en occuper, puis après il y a des recours, CNDA, OFRA, enfin bref, l'OFI, enfin, il y a des centaines de démarches différentes à faire. Et en ce moment, c'est en plus en train de devenir de plus en plus difficile, puisque le discours général, c'est qu'on est submergé, hein, d'après l'autre abruti, là. Donc, on est submergé par personne ne le constate, surtout ici en rural, mais on cherche en fait à limiter les circulations et à embêter le maximum des gens, quoi.
En fait, le résultat principal, c'est qu'on précarise toujours davantage les personnes, et en fait, c'est bon pour personne, en fait, parce que ça fait des personnes en souffrance, donc plus enclines à avoir des problèmes de santé, et en fait, c'est un calcul complètement idiot de rajouter des difficultés à des personnes qui ont déjà tout quitté, pas par gaieté de cœur, en fait. C'est ça qu'on se rend absolument pas compte, mais nous, chaque histoire est unique, hein. Mais tous les exemples qu'on a, tous les gens qui sont arrivés ici, ils l'ont fait pour sauver leur peau, en fait. Il y a beaucoup plus qu'on ne croit, en tout cas, nous, c'est les exemples qu'on a, de gens qui partent parce qu'ils sont menacés dans leur pays et que c'est pas forcément reconnu, parce qu'ils viennent de pays qui sont soi-disant sûrs, sauf que c'est pas forcément le gouvernement qui les menace, mais c'est les mafias locales, c'est parce que... Et on a plusieurs exemples de gens parce qu'ils ont dénoncé des détournements de fonds, et donc pas forcément le fait du gouvernement. Donc la France dit non, mais ce gouvernement-là, ce pays-là, il est sûr, vous n'avez pas le droit d'être réfugié. Sauf que c'est impossible pour eux de retourner dans leur pays. Et ils nous disent tous, mais nous, notre priorité numéro un, c'est d'élever nos enfants en sécurité. Donc de toute façon, on ne peut pas retourner dans notre pays. Et donc on va rester ici. Donc, alors que c'est des gens-là, la famille qu'on accueille en ce moment, c'est des gens qui étaient très éduqués. Elle a été dentiste, puis informaticien. Enfin, c'est pas des gens qui viennent et qui avaient un très bon niveau de vie chez eux. C'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont tout quitté.
De quel pays ils viennent?
Ils viennent d'Angola.
Okay. Et c'est pas du tout des gens qui viennent pomper le système social français comme on essaye de nous le faire croire. C'est des gens qui avaient une situation très bien placée dans leur pays et qui sont partis parce qu'ils sont forcés. Aujourd'hui, ils sont, comme dit leur petite fille, maintenant, maman, on est pauvre. Ben oui, on est pauvre. Ils peuvent pas travailler. Ils sont soumis à notre générosité, entre guillemets, parce que sinon, ils auraient aucun moyen d'avoir de subsistance. Ouais. On leur interdit de travailler alors que il y a des demandes et il y a des promesses d'embauche. On les embête. Ça fait 3 ans qu'on les embête avec leurs papiers. On refuse de leur donner leurs papiers, etc. On reconnaît pas le fait qu'ils sont menacés dans leur pays. Et c'est des gens qui ne rentreront pas chez eux. On en a un autre exemple, c'est un gars qui a 2 enfants français, il est marié avec une Française, mais tous les ans, il faut qu'il renouvelle sa carte de séjour et qu'il prouve, avec des papiers, qu'il s'occupe bien de ses enfants. Alors, pour s'occuper de ses enfants, bah, il faut qu'il garde des notes. Il a acheté des dentifrices pour enfants. Et voilà, c'est... On va venir bientôt surveiller s'il est bien dans l'appartement le week-end, etc. Et c'est un gars qui, de toute façon, ne rentrera pas chez lui puisque ses enfants sont français. Donc, on maintient des gens comme ça dans la précarité. Et pour nous, association, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose parce que c'est de la paperasse pour rien, quoi. Ça nous est arrivé aussi de mettre la préfecture en procès parce qu'ils ne donnaient pas de carte de séjour qui était de droit. On les a mis en procès. Ben, c'est à la préfecture. On avait fait un dossier pour une personne. Elle devait avoir sa carte de séjour. C'est une personne... Enfin, moi, je rentre pas dans le détail, parce que c'est trop compliqué. Et la préfecture ne donnait pas la carte. Donc, on a demandé à l'avocat, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un recours au tribunal administratif. On a gagné. La préfecture a été obligée de donner cette carte. Un an de perdu et de l'énergie pour rien.
On sent quand même qu'il y a une dimension de refus.
On connaît une personne à la préfecture, je ne vais pas dire son nom, mais qui ralentit les dossiers. Et parce que c'est plus idéologique qu'autre chose. Et voilà. Et en plus, comme ils sont débordés, c'est même pas de leur faute, ils sont submergés de dossiers et on leur demande d'appliquer des quotas et de virer un maximum de monde. Donc c'est vrai qu'on sent que si vous avez un accent quand vous téléphonez à la préfecture ou pas la bonne couleur, c'est plus difficile, quoi. Alors c'est vrai que le fait d'être soutenu par une association comme la nôtre, ça aide aussi à l'inverse, parce que quand on accompagne les gens, ben on sent qu'à la préfecture, ils font un peu plus d'attention.
Non, c'était juste pour compléter que dans notre association, donc il y a cet accompagnement auprès des familles, très concret, et aussi on mène d'autres actions, c'est-à-dire qu'on a créé aussi, on s'est dit, mais c'est très bien d'accompagner les familles, c'est indispensable et on le fait. Mais il faut aussi sensibiliser la population locale à cet accueil et changer le regard un peu hein, du discours ambiant. Et donc on a ce qu'on appelle une commission sensibilisation où chaque année on fait plusieurs sortes d'actions différentes. Et en particulier on intervient chaque année au collège. En fait le collège nous demande d'intervenir. Ils font chaque année ce qu'ils appellent des journées citoyennes, qui sont des journées banalisées pour une classe d'âge à chaque fois, où il faut intervenir différentes sortes de témoignages autour de questions de société et d'engagement, en fait, citoyen. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça, mais on constate quand même chez les jeunes un glissement aussi.
Alors, c'est-à-dire ?
Et vers des attitudes de rejet qui ne se cachent plus, en fait. Sûrement, ça existait auparavant, mais il y avait une espèce de parole. On disait, ça se dit pas quand même. Et là, il y a une espèce de libération de la parole à cause de ce qu'on entend dans les médias, à cause de tout ce qui circule, quoi. Hein. Mmh. Et donc là, c'est quand même... Et on essaie d'être dans une attitude à la fois de respecter la parole de chacun, donc de même de ceux qui disent des trucs insupportables, mais d'essayer de faire réfléchir et prendre du recul.
Et alors, vous avez la sensation que ça accroche sur un débat d'idées, ou est-ce qu'on sent que ça peut tourner un peu,
non? Le principe, c'est de ne pas arriver avec le message qu'il faut croire. Oui. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'à ce moment-là, on sait que ceux qui sont opposés à ça, ils vont se taire. L'idée, c'est de faire exprimer les choses, puis ensuite, entre eux, de voir comment ça se passe, pourquoi ils disent ça, et souvent, les arguments sont un peu faibles. Et les techniques d'animation, c'est par exemple les débats mouvants, les choses comme ça, où chacun se positionne, et puis il se positionne aussi un peu, et les autres se positionnent autour, et qu'il y a un débat qui se crée. L'idée, c'est pas d'arriver en disant, voilà ce qu'il faut croire, et bon. Et...
Non, c'est aider à réfléchir, surtout.
Voilà, c'est aider à réfléchir, et puis on projette toujours un film avec un témoignage d'un jeune, exilé, qui a réussi à reprendre des études en arrivant, des témoignages positifs. On essaye de montrer que tout ça existe, et que c'est... Et que c'est beau, quoi. Que c'est... Voilà. Et on essaye, donc ça c'est auprès du collège, mais on a aussi, on essaye de toucher des gens en dehors des gens convaincus. Parce qu'en fait, quand on fait des conférences sur un sujet comme ça, ce qu'on peut faire, on touche ceux qui sont déjà convaincus. Hein. On a fait ça avec, il y avait une université populaire, on avait fait 3 soirées. Bon, voilà. Là, depuis 2-3 ans, on essaye justement d'avoir d'autres sortes d'animations. Et par exemple, la dernière fois, on a fait un loto. Alors, il y avait l'objectif de gagner un peu d'argent. Mais c'était aussi, alors c'était vraiment super parce qu'on a la chance dans notre association d'avoir des adhérents et OCA, un public c'est très intergénérationnel. Donc nous, on est plutôt à la retraite. Mais on a avec nous plutôt des trentenaires, super dynamique, avec des idées toujours originales. Et donc là, elle nous avait organisé un loto burlesque. Donc c'était aussi à la fois un loto et à la fois du théâtre et du clown. Et donc, on a eu dans le public, et ça, c'était vraiment formidable, aussi bien les fans de loto du coin, donc qui sont...
Voilà. Peu importe le loto, ils y vont.
Voilà, quel que soit le loto, ils y vont. Ils savaient pas du tout ce que ça pouvait être que R, etc. Et puis les militants de R. Donc ça faisait quand même un mélange de population assez intéressant. Et à la fin, vraiment, même les gens fans de loto qui ont été vraiment surpris d'avoir des numéros de clowns ou de trucs au milieu, ou de chansons, etc., ont été ravis en disant « on a passé un moment formidable, et du coup, c'est quoi votre association ?» Enfin voilà, du coup, ça a permis d'autres rencontres. Et là, on est en train de préparer un tournoi de pétanque pour le mois d'août. Fin août, un peu dans le même esprit. Et donc là, ça se prépare avec certains membres du conseil d'administration qui sont très mobilisés là-dessus, avec le club de pétanque du coin. Enfin, il y en a deux, un club de pétanque et de boules lyonnaises. Mais bon, tous les deux veulent bien travailler ensemble avec nous. Enfin bref, c'est génial. Parce que du coup, ça crée des ponts dans des milieux qu'on touche pas forcément quand on fait des actions plus militantes, quoi. Et pour ça, voilà, pour nous, c'est vraiment très, très précieux d'aller au-delà des cercles convaincus. Et un peu à cette image-là, l'an dernier, quand on a fêté nos 10 ans, on a fait un gros événement, c'était en mars, je crois, je ne sais plus, où on a fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a fait une table ronde, donc plus sur l'histoire, en fait. Le titre, c'était « Un siècle d'accueil des exilés dans le Royan et le Vercors ». Et on a parlé aussi bien des immigrés italiens qui sont venus, qui ont, voilà, dans le Vercors, les réfugiés espagnols, les combattants étrangers qui ont été dans la résistance, parce qu'il y en a eu beaucoup, et donc voilà, on a eu plusieurs des historiens qui en sont venus témoigner. Là on a eu une centaine de participants, c'était vraiment chouette. Après on a passé un film, Interdit aux chiens aux Italiens, ce film qui est coproduit par le Centre du patrimoine arménien. Et après, un concert très festif avec le groupe La Vache. Voilà. Et du coup, cette journée, cet après-midi et soirée, a mélangé plein de gens différents, là aussi. Et ça a été vraiment un très beau moment, quoi.
Et alors, dans Saint-Jean, en fait, est-ce que vous avez déjà été en butte, en fait, avec des sortes de réflexions ou des comportements négatifs par rapport à ce que vous faisiez?
Alors, on a été, moi je suis élue, hein, et lors de notre, justement pour nos 10 ans, on avait une exposition qui s'appelait, une exposition qui venait de l'intercommunalité voisine, c'est-à-dire de Saint-Marcellin. Ils ont créé une exposition qui retraçait l'histoire de l'accueil des exilés du sud-est asiatique à Cognat-les-Gorges, en fait, à Cognat-les-Gorges, donc en Isère, mais au pied du Vercors, donc pas très loin de chez nous, des années 75 à 95-2000, il y a eu un gros centre qui a accueilli des réfugiés d'abord du sud-est asiatique, puis après aussi d'Afghanistan, etc. Et en fait, en réaction aux réactions très négatives qu'il y a eu quand il y a eu le CAO de Saint-Hilaire dont parlait Pierre tout à l'heure, ils ont dit, il faut qu'on montre que cet accueil, ça peut être positif. Donc, ils avaient monté une exposition très, très belle qui s'appelait, Sur la route de l'exil. Je me rappelle du titre. Et donc, moi, j'avais demandé que cette exposition soit présentée à l'Office du tourisme à Saint-Jean, le temps autour de nos 10 ans. L'Office du tourisme en lui-même était d'accord. Mais en fait, ça passait au conseil d'administration. Et là, il y a eu certains élus qui ont dit, non, on va pas faire un truc sur les migrants à l'office du tourisme, rien à faire là, etc. Et donc, il a fallu vraiment batailler, et ça a été voté à une voix près. Finalement, ça a été accepté. Mais là, c'était assez étonnant parce que du coup, c'était la part d'élus qui avait peur, en fait. Voilà. Mais sinon, dans la rue, on n'a jamais eu de...
On a vu par une fois, on a fait le 31 janvier, le 31 décembre avec les membres du CAO, les Soudanais qui étaient au CAO. Il y a eu des réactions, mais c'est toujours un peu discret. On entend dire le retour. Je ne veux pas donner trop de détails, mais il y a eu des réactions du genre si vous avez des problèmes dans la rue, il ne faudra pas vous plaindre avec les gens que vous accueillez. Quoi. En fait, la fête a été super sympa. Et les jeunes Soudanais ont découvert la bourrée auvergnate ou les danses locales. On a des films extraordinaires. Voilà, il n'y a pas vraiment d'opposition centrale. Puis alors, ce qui est amusant, c'est de voir aussi que maintenant, les familles qu'on a accueillies au début, elles sont à Saint-Jean depuis 10 ans.
Et
elles vivent à Saint-Jean et personne ne fait le lien.
Et elles ont
pas de soucis, en fait. Non, puis je suis sûr qu'on poserait la question en disant « Mais ça, c'est des gens, ça, c'est des migrants. » Ah bon ? Mais non, mais c'est... Bon, ils ont des prénoms un peu spéciaux, c'est vrai, mais voilà. Et c'est des musulmans, en plus. Ah bon ? Et c'est peut-être des islamistes, on ne sait pas, mais on n'a pas vraiment de retour. Alors, c'est un peu ce que disait Marie aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut arriver à sortir de notre cercle de convaincus et d'aller au contact un peu avec les gens qui sont réticents ou... Mais souvent, quand on coince ces gens-là, entre guillemets, dans le dialogue, on dit « Oui, non, mais ok, oui, mais... En fait, non, mais lui, c'est pas pareil. »
On connaît.
Et c'est ça.
Ça, c'est un classique. Hein.
Ouais. Et du coup, il faut agir là-dessus. Lui, tu connais, mais celui d'à côté, en fait, ça peut être pareil. Tu le connais pas. Mais... Et quand même, je trouve qu'on a eu aussi quand même une belle reconnaissance, justement, au moment des 10 ans, c'est qu'on a eu un article dans le journal municipal. Et ça, c'était quand même pas du tout gagné, parce que ben, moi, je suis élue dans l'opposition à Saint-Jean. Et en fait, voilà, tout le monde est passé au-dessus de ça. Et on a trouvé que c'était quand même vraiment, vraiment chouette.
C'est positif.
C'était vraiment positif, ça. Voilà.
Je voulais juste poser une question. Parce que du coup, est-ce que ça arrive qu'ils aient pas de papier? Que ce soit un refus définitif et que... Et alors, comment ça se passe dans ce cas-là? Vous faites comment?
Ben, c'est un peu compliqué, mais ça va être de plus en plus. C'est vrai que la première famille qu'on a eue, ils avaient épuisé tous les recours. Donc, en fait, ils étaient menacés d'expulsion. Et donc,
oui, c'est là qu'on a fait compliqué. Des cercles de silence, etc. Et que grâce à toute cette mobilisation et celle aussi des élus, même s'il ne faut pas trop en parler, ça a pu être réglé.
Mais parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la circulaire Valls. C'était une espèce de possibilité de transiger sur le discours ambiant M. Valls, qui n'était pas un tendre tellement. Hein. Et il avait un discours très négatif devant le micro. Puis après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des cas, beaucoup, beaucoup de cas particuliers, entre guillemets, où les gens, justement, ne rentreraient pas, ne pouvaient pas être expulsés, ne pouvaient pas quitter la France. Et donc, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Alors, soit on les laissait dans la clandestinité pendant 10, 20, 30 ans, soit on trouvait des biais. Et donc, ils avaient fait une circulaire. Ils n'ont pas fait trop de pubs là-dessus, mais qui permettait, par exemple, pour une régularisation pour vie privée et familiale ou une régularisation pour travail. Mais des fois, il fallait attendre 10, 20 ans. Et puis, c'était à la discrétion des préfets.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient quand même travailler.
Non. Ils pouvaient demander une régularisation parce qu'ils travaillaient. Alors, comment ils faisaient, on ne sait pas, parce qu'ils n'avaient pas le droit. Mais aujourd'hui, avec la circulaire Retailleau, c'est ça.
C'est encore pire.
C'est encore pire parce qu'il n'y a plus de circulaire Valls et il faut travailler 10 ans.
Non, 12 mois. Il faut avoir 12 mois de fiche de paye, être en France depuis au moins 3 ans, pour être régularisé par le travail.
Sur un métier en tension.
Sur un métier en tension. Alors qu'avant, c'était n'importe quel métier. Et là, c'est le côté ubuesque du truc, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de travailler, mais si tu peux prouver que tu as travaillé pendant 12 mois dans un métier en tension, tu vas peut-être être régularisé. Donc en fait, ça incite les gens à enfreindre la loi, à travailler alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, pour espérer peut-être, à la discrétion du préfet, être régularisé. Et tout ce qui est vie privée et familiale, dans la circulaire Retailleau, il a dit, il a demandé au préfet de ne quasiment plus rien donner pour vie privée et familiale. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit que par le travail. Mmh. Et alors nous, on est face à cette situation-là. Donc là, la famille qu'on accueille est en recours à la CNDA, donc de droit d'asile. Donc peut-être qu'ils auront le statut de réfugié, on n'en sait rien. On croise les doigts. Si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les inciter à être hors la loi pour qu'ils puissent travailler et surtout trouver une entreprise qui prenne le risque. C'est vraiment c'est terriblement inhumain et c'est terrible.
C'est
débile.
Parce que alors, comment concrètement ça se passe? Ces gens deviennent finalement dans l'illégalité, c'est ça? Donc ça veut dire que quand ils croisent les gendarmes, ils sont obligés de se cacher ou comment ça se passe concrètement, je parle, hein?
Concrètement, on se rend compte, nous par exemple, on est allé à la gendarmerie parce qu'on avait besoin d'un papier pour cette famille. On s'est dit, faut pas qu'ils aillent tout seuls à la gendarmerie. On pensait qu'ils étaient menacés. Et en fait, les gendarmes ne savaient même pas qu'ils étaient là. Parce que donc, il y a des espèces de discussions comme quoi ils sont illégaux. Mais en fait, il y a aussi plein de choses où les gens sont illégaux et personne ne s'en rend compte. Par exemple, à l'école. Le nombre de gamins qui sont scolarisés, parce que c'est obligatoire, et dans des familles sans papier, dans des villes comme Lyon, par exemple, c'est incroyablement important. Et des gens aussi, des élèves qui n'ont pas de logement. Donc ils sont à l'école, ils arrivent à l'école, mais en fait, la nuit, ils sont dans la rue. Bon, mais personne ne sait trop, et on pourrait très bien le savoir. Il suffirait de les contrôler, de les embarquer et de les expulser.
Enfin, je ne comprends pas, dans une inscription à l'école, on demande toujours une adresse, un référent parental,
non. Donner l'adresse de l'association. Nous, on a servi comme ça d'adresse un certain temps. Après. Et en fait, personne ne veut savoir. Parce que l'école, c'est un droit, une obligation. Donc, les enfants sont obligés d'être scolarisés. Le soin, c'est pareil, la fameuse AME, aide médicale d'État dont on parle. C'est indispensable d'avoir une aide médicale pour les gens qui n'ont pas de couverture sociale, ne serait-ce que pour lutter contre les épidémies, la tuberculose, des choses comme ça. Donc, on sait que les gens, ils arrivent à l'hôpital, on va les remettre dans la rue, c'est le cas qui est arrivé avec la famille qu'on avait. Elle avait accouché au mois de janvier, et au bout des 3 jours de maternité, dehors, on ne peut pas regarder la maternité. Dehors, et où ? Ben, c'était dehors, dans la rue, au mois de janvier.
C'est pour ça que là, c'était en urgence qu'on a, voilà, qu'on s'est mobilisé. Mais pour dire, tant que les gens n'ont pas d'OQTF, c'est ça qui est très très bizarre, c'est que tant que les gens n'ont pas d'OQTF, ils sont pas obligés de partir. Ils peuvent pas travailler, ils ont pas de droit, mais ils sont pas obligés de partir. Donc en fait, ils sont pas illégaux vraiment. Ils ont juste pas de papier.
C'est une espèce d'entre-deux.
Et en fait, du coup, c'est une main d'œuvre exploitable, corvéable à merci. Beaucoup de gens, du coup, et voilà, ils vont être exploités dans le travail au noir, etc. Et en fait, il y a aussi tout un pan de l'économie qui marche comme ça. Et d'ailleurs, on voit bien, même le ministre de l'économie, après la circulaire Retailleau, il n'était pas d'accord. Il a dit, en fait, on en a besoin de ces gens, donc faut arrêter de pas vouloir régulariser. Enfin, voilà, il y a un espèce de discours parce que, soi-disant, on est tous contre les immigrés, ce qui, voilà, il faut encore le prouver. Mais en fait, la société en a besoin, ne serait-ce que du côté économique, sans compter tout ce que ça apporte, l'interculturalité. Mais, enfin voilà, c'est...
Donc ça permet en fait de manipuler et de profiter de cette main-d'œuvre, en fait, c'est ça. Hein. Mm-hmm. Et une fois qu'on n'a plus besoin, salut, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'autorisation réelle de rester sur place. Venez travailler si vous voulez, mais voilà, sans les droits et sans tout ça, quoi. En gros, c'est ça.
Et les fameuses OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, on n'arrête pas de dire, il faut les appliquer, mais on ne peut pas les appliquer, parce que pour les appliquer, il faut un visa consulaire. C'est-à-dire, il faut que le pays de réception fasse un visa pour permettre à la personne de repartir chez elle. Okay. Or, les pays d'origine n'ont aucun intérêt à faire ce genre de visa, parce que ça crée des problèmes, il faut accueillir les gens, il faut un peu s'en occuper quand même. Donc, ils font les morts, ils signent pas. Donc, les gens ne peuvent pas partir. Et le QTF, jusqu'à Retailleau, c'était 1 an. Donc, vous avez l'obligation. Pendant 1 an, vous vous cachez un peu, vous faites attention. Et après, le QTF tombe. Et donc, comme dit Marie, vous êtes ni dedans, ni dehors, mais voilà. Et maintenant, le QTF va durer, alors c'est 3 ans. J'ai pas appris par cœur la
figure. Et puis toute
personne qui a eu une QTF ne pourra plus demander la régularisation.
Et l'OQTF, elle est donnée par... Enfin, à quel moment, en fait ? Quand vraiment il y a un refus ou pas forcément ?
Ben maintenant, avec la circulaire Retailleau, c'est automatique. Avant, non. On pouvait avoir un refus de droit d'asile ou un refus de régularisation sans OQTF. Donc ça veut dire que ben, vous êtes toléré à rester là, mais on ne vous donne aucun droit, en gros. Alors que maintenant, la circulaire Retailleau, c'est chaque refus, quelle que soit la raison du refus, sera assorti d'une OQTF. Et à partir du moment où on a eu une OQTF une fois, on ne pourra plus jamais déposer de demande de régularisation. Donc c'est très très... Du coup, avant de faire une demande de régularisation, ben, les gens hésitent beaucoup. Nous, on a eu le cas encore avec la famille, là, on a dit, mais est-ce que tu crois qu'on fait un recours ? Parce que si jamais c'est négatif, on a l'OQTF, et là c'est cuit pour toujours. Alors que sinon, ben, on n'a qu'à rester comme ça, mais rester comme ça, quel avenir, quoi ? C'est vraiment terrible ce qu'on fait subir, en fait. C'est incroyable.
Et puis, vous travaillez avec des avocats, des choses comme ça ?
On a, heureusement, il y a des avocats qui sont un peu donnés à cette logique et qui gagnent très peu d'argent avec ça, parce que ça fonctionne avec
l'aide juridictionnelle,
donc c'est un minimum syndical, et les avocats qui font ça sont des militants. Mais grâce à eux, on arrive à trouver des failles, des argumentations, et à faire avancer certains dossiers. Mais ce qu'il y a aussi, en plus de l'OQTF, il y a l'interdiction de revenir en territoire français, qui peut être accolée à l'OQTF. C'est-à-dire, non seulement on vous oblige à quitter, mais on vous interdit de revenir. Donc ça, c'est encore une arme à plusieurs tranchants.
Mais. Mais ça, il y a quand même une raison qui est collée à ça, ou c'est arbitraire ?
Oui, ben, il doit sûrement y avoir une raison, mais elle n'est pas vraiment inscrite dans le code.
Voilà.
Oui, en fait, le dossier, ben, la famille dont on s'occupe maintenant, l'avocat dit, mais il aurait dû être régularisé, parce qu'elle avait un dossier en béton armé. Moi, tous les dossiers que je vois, celui-là était super solide, et il n'y avait aucune raison de le refuser. Mais une petite circulaire qui passe, un petit vent, machin, et hop, il serre le boulon. Et l'idée, c'est, on régularise trop, on va être submergé, donc il faut arrêter de régulariser. Et donc, tac,
Donc vous, en 10 ans, finalement, avec tous ces changements de gouvernement et tout ça, vous avez senti la différence ?
Ah bon, on voit que ça s'aggrave. Nous, on se dit toujours que jusqu'à présent, toutes les familles qu'on a accueillies ont été régularisées. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une famille qui est partie, qui est partie ici avant d'avoir la réponse. Et on sait maintenant qu'elles n'ont pas été régularisées. Mais on voit quand même que c'est de plus en plus compliqué. Et donc, la personne qui s'occupe de la commission juridique ici, elle est de plus en plus confrontée à des problèmes de paperasse. Comme je vous disais tout à l'heure, pour prouver qu'on s'occupe de l'enfant, il faut des papiers. Pour le fait de montrer que les enfants sont scolarisés, l'inscription à l'école ne suffit pas. Il faut aussi des bulletins scolaires pour montrer qu'il est inscrit, mais qu'il est présent. Alors, donc, il faut pratiquement tous les bulletins scolaires, etc. Donc, c'est de plus en plus de paperasse et de plus en plus de délais courts. C'est-à-dire qu'on a une carte de séjour pour un an.
Ah oui.
Et il faut s'y prendre 6 mois à l'avance, vu les délais, pour la refaire. Donc, on a à peine commencé qu'il faut déjà faire. On n'a pas du tout parlé aussi de familles ukrainiennes. On a 3 familles, enfin, on a eu 4 familles. On a maintenant 3 familles ukrainiennes ici. Et les Ukrainiens, c'est un peu particulier parce qu'ils ont un statut, eux, qui est différent pour l'instant. Ils ont le droit de travailler. Donc, mais eux, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont à cheval toujours entre 2 pays. Et on voit les familles, elles ont un mal fou à apprendre le français parce que elles sont ukrainiennes et elles n'ont qu'une envie, c'est de retourner en Ukraine. Voilà. Mais c'est aussi des gens, il faut renouveler leur autorisation de séjour tous les ans. Et donc, faire les papiers bien avant, etc. Prendre tout le temps avec les paperasses qu'il faut à la préfecture. Et la préfecture est débordée par les Ukrainiens.
Qui ont quand même le désir de repartir, j'imagine.
Oui, alors, il y en a une des familles qui a plutôt à dire, ça y est, maintenant, on sait qu'on va, investir en France. On va rester en France, mais peut-être qu'ils repartiront. Hein, mais ils ont pris l'idée de repartir en France. Surtout, le problème, c'est les enfants. Les enfants, ils sont scolarisés en France. Ils apprennent le français en France, mais en même temps, ils devraient rester scolarisés avec l'Ukraine. Ils reçoivent par Internet, pour rester ukrainiens et pour pouvoir revenir en Ukraine. Parce que s'ils reviennent en Ukraine et qu'ils ont pendant 3 ans complètement lâché le cursus ukrainien, ils vont être perdus complètement. Donc l'Ukraine cherche à les maintenir en ukrainien. Et c'est respectable, il faut absolument laisser faire ça.
Bien sûr.
Mais en même temps, à l'école, on pense surtout aux ados un peu plus grands, 10, 12, 15 ans, mais parce que le petit il parle français mieux que la maman.
Mais il avait beaucoup de difficultés à l'école quand même. Parce que il n'y a pas de projet, en fait. C'est ce que un peu je disais tout à l'heure.
Oui.
Quoi. Et du coup, que ce soit pour les familles ukrainiennes ou pour les autres, il y a tellement de souffrances dues à la situation du départ, etc., qu'on essaye aussi de mettre en place des soutiens psychologiques. Enfin, voilà, tout autour de la santé, on essaye de permettre un accompagnement, en fait.
Et oui, la santé, c'est quelque chose. Hein.
Voilà, et du coup, ce qu'on se rend compte, avec un peu de recul, c'est qu'il y a la partie, au début, quand on part tout feu, tout flamme, parce que cette famille, elle est en danger, on n'a pas le choix, on y va. Ça paraît évident. Et on donne un peu de sous chacun, et voilà, c'est parti. Et puis après, on se dit, en fait, c'est pas du tout qu'une histoire de donner 3 sous, en fait. Hein. C'est vraiment un engagement et un accompagnement, et qui bouscule. C'est beaucoup de temps, beaucoup de choses. Il faut se former, parce qu'on n'y connaît rien, quoi. Enfin, comme on n'est pas spécialiste du tout du droit des étrangers, donc il faut se former pour pas faire n'importe quoi. Il faut inventer des actions, il faut être diplomate pour que les élus du coin nous soutiennent et nous mettent pas des bâtons dans les roues. Enfin, voilà, il y a vraiment une action.
Il faut être supervisé pour pas se faire avaler aussi par la relation. La famille où il y avait un petit bébé, toute la commune dans laquelle ils étaient, c'était Saint-Laurent, s'est mobilisée pour s'occuper du petit, qui s'était adopté, en fait. Et quand sa famille est partie, elle est partie, bon. Ça fait un vide, un choc, et il y a eu des bénévoles qui ont eu du mal à mettre. Donc, il faut aussi superviser.
À la fois chouette et à la fois, ça peut être douloureux.
Faut pas être trop non plus, voilà. Et il faut laisser la vie privée des gens, c'est leur vie, on n'a rien à dire sur leur vie. Mais en même temps, on est amené à connaître des choses de leur vie qui sont très intimes. Donc, il faut faire très très attention. Et on se rend compte que les familles qui ont accueilli, par exemple, chez eux des Ukrainiens, Au bout de 6 mois, l'État, lui, il est parti. Et ben, c'est très, très compliqué. Et s'il n'y a pas autour un accompagnement, un soutien, ça ne fonctionne pas. Et ça finit des fois dans les grosses difficultés.
Ah oui. Alors, je dirais, c'est quoi votre rêve le plus fou par rapport à votre association? Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que vous aimeriez avoir plus de capacités de logement, par exemple, ou plus de donateurs, plus de bénévoles? Enfin, j'en sais rien. S'il y avait un truc vraiment qui vous tient à cœur et que...
L'idée, moi, je trouve que ça serait d'avoir un pays, soi-disant pays des droits de l'homme, qui respecte son histoire et donc qui accueille. Et à ce moment, on aurait besoin d'être là pour accueillir les gens, pour les aider à s'implanter. On pourrait faire de l'accueil interculturel dans le Royan. Là, aujourd'hui, on passe notre temps à faire des paperasses et à convaincre des gens qui devraient être convaincus d'accorder des asiles. Après, d'avoir plus, effectivement, mais nous, on vit de la mer avec une petite cuillère, hein, c'est pas dans le Royan qu'on fait... Bon, moi, j'avais fait le calcul sur la population du Royan et le nombre de familles qu'on a accueillies. Si tous les habitants français faisaient ça, tous les cantons français faisaient ça, on pourrait accueillir sans aucun problème 200 000 personnes. Et on peut accueillir 200 000 personnes, il n'y a aucun problème pour ça. Il faut arrêter d'avoir peur de son nombre, quoi. Moi, mon sujet, c'est ça, c'est qu'on arrête de raconter des conneries à la télé là-dessus.
Oui, je crois qu'au-delà de notre propre... ce qui se passe ici, c'est vraiment une ambiance générale qu'on aimerait qu'il change, en fait. Et que le discours sur les personnes exilées soit totalement autre. Et qu'on puisse vraiment appliquer notre devise qui est la fraternité, quand même. Un des trois mots de notre devise. Et qu'on essaye, nous, de faire vivre au quotidien. Et que malheureusement, l'État lui-même va à l'encontre de ce mot qui devrait le guider, en fait. Et donc, c'est peut-être ça notre rêve le plus fou.
C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est mondial, hein. Cette espèce d'ambiance-là qui commence à se durcir un peu dans tout l'Europe, déjà, et puis là, les États-Unis qui s'y mettent, etc. Est-ce que vous sentez, enfin, je sais pas, que ça fait peur, enfin, c'est quoi votre sentiment, on va dire?
Après, on se rend compte aussi qu'il y a des choses donc, qu'on perçoit en France, mais il faut pas oublier que les réfugiés se réfugient avant tout dans les pays voisins. Et c'est pas la France qui recueille le maximum de réfugiés, c'est les pays qui sont autour des zones en guerre, comme dans le Soudan, par exemple. La plupart des migrants du Soudan sont dans les pays voisins. Et les pays voisins, qui sont eux-mêmes très pauvres et qui ont des grosses difficultés pour survivre, donc accueillent les gens qui sont déplacés. La Syrie, quand les Syriens ont quitté leur pays massivement, c'est des pays comme la Jordanie, le Liban qui les ont accueillis et qui ont accueilli... Ils ont 50% de leur population sont des réfugiés. Donc ici, on pleurniche, alors qu'on est la 5e puissance commerciale économique du monde. Je veux dire, on a quand même les moyens d'accueillir et de faire des choses. Et il y aurait un travail énorme, non seulement d'accueil, mais aussi peut-être de développement, pour se poser la question sur pourquoi est-ce que, par exemple, dans les Comores, Mayotte est soi-disant envahie par les îles voisines. Ah, ben c'est bizarre, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle de développement aussi à imaginer, d'autres relations avec le tiers-monde, dit tiers-monde? On voit un petit peu l'Afrique du Sud, par exemple, commencer à réunir autour d'elle des pays, on appelle les BRICS, là, bon, qui ont été colonisés et qui maintenant essayent de se développer. On se dit qu'il y aurait peut-être des relations internationales à modifier pour qu'on soit vraiment sur l'équilibre. Mais on en est loin, hein, je pense.
Oui, il y a vraiment un problème global énorme, hein, puis d'exploitation des richesses, enfin un peu ce que dit Pierre là. Mais donc c'est plutôt tout ça, c'est plutôt assez déprimant en fait, hein, assez dur. Et puis on voit bien comme ça se durcit. Et en parallèle, il faut pas qu'on se laisse gagner par cette déprime totale, parce qu'on voit aussi, donc nous ici on le vit, beaucoup de solidarité qui se met en place, beaucoup de gestes très simples. Et donc voilà, il faut absolument qu'on s'appuie tous là-dessus, et puis que tous ces gestes, toutes ces associations qui existent, on soit peut-être plus en lien les uns avec les autres, pour avoir un peu plus de poids et faire entendre une autre parole, en fait, sur tous ces sujets.
Et vous n'arrivez pas à être en réseau, vraiment?
Si on le fait un peu, après, comme on est tous complètement sous l'eau, Charrette, avec tout ce qu'on fait, et que malheureusement, c'est peut-être pas dans nos priorités. Et alors, on est en lien, si, avec l'ASTI, avec la CIMAD, mais voilà, je pense qu'il y aurait peut-être beaucoup plus d'actions, de plaidoyer à faire ensemble. Et
pourquoi ça se fait pas, finalement?
Je pense beaucoup d'énergie, hein.
Ouais,
et puis face, on a un peu l'impression de ramer à contre-courant. Nous, on préfère un peu être discret. Voilà, donc grâce à Radio Saint-Ferréol, ça va dépoter. Non, mais il y a eu un moment des états généraux de la migration. Il y avait des réunions à Valence, donc on y allait quand on pouvait y aller, on y allait assez. Et l'idée, c'était justement de monter un peu au niveau national cette parole et des propositions concrètes. Mais en fait, vu l'ambiance générale, c'est pas que si on est découragé, c'est pas ça, c'est qu'on se dit, on va pas perdre notre temps à convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus, on va plutôt passer notre temps à accueillir, à réparer les dégâts et à faire un petit peu ce que l'État devrait faire. Hein. Parce que là, on voit, si vous suivez un peu l'actualité, on voit qu'à Briançon, ils sont en première ligne pour accueillir les gens qui passent l'école. Mais ensuite, il faut absolument que Briançon, passe des bases, mais que les gens qui arrivent à Briançon puissent continuer leur voyage pour laisser la place à ceux qui arrivent. Et donc, il y a deuxième ligne, troisième ligne. Et nous, on est plutôt en troisième ligne, quoi. Et de se dire que on sait ce qu'ils font à Briançon, on sait ce qu'ils font à Die, à Gap et ailleurs. Et nous, on fait ce qu'on peut à notre niveau. On reste en lien. Mais on n'a pas beaucoup d'énergie et de temps à consacrer.
On est petit quand même. Hein. On est petit. Donc, alors, c'est vrai que pour le Royan, c'est super d'avoir environ 80 adhérents et plein de bénévoles et plein de donateurs. Mais oui, ce qu'on n'a pas dit au niveau argent, c'est qu'on ne vit que par les dons. On n'a aucune subvention. Ne souhaite pas du tout avoir de subvention, et voilà, et qui servent donc à payer les loyers. À une époque, on en avait deux logements, et à donc donner de l'argent chaque mois aux familles, celles qui ne peuvent pas travailler, en fait.
Vous avez réfléchi à des accueils citoyens, hein, c'est ça?
Et on a, en ce moment, se met en place une réflexion pour accueillir dans les familles, dans les maisons, mais donc plutôt des jeunes, pas des familles là, mais plutôt des jeunes qui sont scolarisés la semaine en internat et qui passent,
Ça serait pas faisable avec une famille ou même un couple ou des choses comme ça? Des majeurs, enfin.
En fait, on ne sait pas où ils iraient le reste du temps.
Parce que c'est des accueils qui seraient que ponctuels des week-ends.
Oui, voilà. Et ça s'est fait. Il y a eu des familles qui ont accueilli sur le long terme plusieurs mois, et en fait ça a été très 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 compliqué parce que ça se fait dans d'autres villes, hein, mais généralement d'abord c'est dans des villes parce qu'il y a un gros réseau de gens qui accueillent et donc les personnes tournent. Et nous on l'a fait aussi quand il y avait les jeunes soudanais là, on l'a accueilli à la maison longtemps. Et pour ces jeunes, c'était aussi, pour ces jeunes, c'est des jeunes adultes, mais c'était difficile aussi de passer de famille en famille, parce qu'ils disaient, mais en fait, j'en peux plus d'être trimballée partout, quoi. Depuis que je suis partie de chez moi, j'ai pas de chez moi. Et donc, c'était pas si simple. Donc, on est peut-être un peu trop petit. Pour ce genre de projet d'accueillir vraiment à domicile. C'est généreux, mais c'est un sacré engagement. Ouais. C'est difficile.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est éligible au rescrit fiscal. C'est-à-dire que toute personne qui nous donne des sous peut déduire ses impôts. Et moi, je trouve ça symboliquement, c'est très bien. Ça veut dire que c'est l'État, évidemment, qui nous finance par ça. Et donc, il répare un petit peu les bêtises qu'il fait d'un côté.
On va dire ça.
Voilà.
Pas mal
pour
le mot de la fin.
Ouais, enfin, moi, sur le mot de la fin, j'ai juste envie de revenir ce que j'ai dit tout à l'heure sur la fraternité, en fait. On est juste ici en train de vivre notre devise. Voilà. Ça serait bien que ça soit partout.
Non, puis on s'amuse bien à accueillir des gens nouveaux. C'est extrêmement enrichissant et riche. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me promener dans les pays d'origine de ces gens et d'être accueilli par les familles de ces gens quand ils pourront voyager, si on peut. Parce que, par exemple, l'Albanie, c'est un pays magnifique.
Ah oui.
Voilà.
Juste une petite question, vous êtes resté en lien avec toutes les familles?
ça dépend ce qu'on appelle lien. On sait où ils sont, on peut avoir de leurs nouvelles.
Ils en donnent.
Alors certains en donnent et d'autres. Il y en a un par exemple, un Soudanais qui a fait venir, a réussi à faire venir sa femme et sa fiancée à l'époque en France. Et ils sont mariés à distance et là ils ont un enfant et ils sont venus nous le présenter.
Oh, génial.
Ah, ça c'est extraordinaire. C'est après il y a d'autres familles, on sait qui sont en Haute-Savoie. Si on a besoin de nouvelles, on les appelle. Bon, puis après, les liens se
diluent.
Oui, c'est
après,
ça.
C'est la vie.
Eh bien, merci à vous deux, en tout cas.
Merci.
Faire une capsule temporelle.
On referme la capsule temporelle et on se donne rendez-vous le mois prochain.